La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Vinciane Colson au micro. Arrestations arbitraires, manifestations réprimées dans la violence, élections présidentielles reportées, médias réduits au silence, la République démocratique du Congo vit une période plus que difficile. À Kinshasa, la tension grandit de jour en jour. La semaine passée, plusieurs personnes ont été tuées dans des affrontements. Les sièges du parti au pouvoir et des partis d'opposition ont été incendiés. Les esprits se sont clairement embrasés ces derniers jours. Pour nous aider à décrypter la situation actuelle en République démocratique du Congo et parler des atteintes aux droits de l'homme, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités ce soir. Alors tout d'abord, Sabine Kakunga, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée du dossier Afrique centrale au CNCD, le Centre national de coopération et développement. À vos côtés, Dimitri Verdonk, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'ACP, l'association Culture et Progrès, et vous avez organisé notamment plusieurs rencontres au Parlement européen avec des représentants de l'opposition congolaise. Et enfin, Fabrice Sprimont, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur coopération et développement à Wallonie-Bruxelles International. Et vous avez vécu aussi à Kinshasa de nombreuses années en mission pour cette même institution. Alors merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Et je voudrais commencer avec la situation politique que l'on connaît aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est une situation complexe. Fabrice Sprimont, alors je vais vous confier une lourde tâche. C'est celle d'essayer de nous résumer le plus clairement possible la situation politique, on va dire, depuis les élections présidentielles de 2011. Essayer de retracer un petit peu les axes centraux.
Merci à vous et bonsoir à toutes et tous. Les dernières élections, donc fin 2011, il y a un peu moins de 5 ans. Nous sommes dans un quinquennat en RDC. Alors, je pointe les éléments qui me semblent vraiment importants. 2013, octobre 2013, des concertations nationales. Évidemment, les élections de 2011 ont été beaucoup moins bonnes que les élections de 2006. Je dis évidemment parce que il y a un contexte qui s'est détérioré. Il y avait une grosse pression de la communauté internationale sur les élections de 2006 qui sont donc bien passées parce qu'on a eu des élections, du recomptage. Je pense qu'il y a eu une véritable victoire de Joseph Kabila en 2006. En 2011, on a ressenti un peu moins de pression de la communauté internationale. Voilà, le processus était lancé. Et il y avait très peu de possibilités en 2011 de pouvoir mener les choses convenablement, puisque les élections, la constitution avait déjà été retouchée en janvier 2011, puisqu'on avait notamment touché le retrait d'un deuxième tour aux élections. Donc les élections de 2011 se caractérisent par l'absence d'un deuxième tour, une victoire au premier tour. Donc déjà, c'est un gros élément, je pense, de frustration dans la population. Les élections se passent pas bien en 2011. Tout le monde demande le recomptage des bulletins qui n'a pas lieu. Et donc voilà, il y a une victoire, évidemment, constitutionnelle, mais qui est sujette à caution pour une grande partie de la population. Ce qui crée, je dirais, déjà un premier processus de frustration qui nous amène à des concertations nationales en octobre 2013. Après de longs débats, voilà, ça a l'air long comme ça, début 2011, fin 2013, mais je pense qu'il y a toute une série d'événements politiques qui se succèdent pour arriver à ces concertations nationales. Et vous ajoutez encore un an jusqu'en décembre 2014, où on a enfin un gouvernement de cohésion nationale. Donc on est 3 ans déjà après les élections pour qui nous constitue déjà, je dirais, une étape importante avec ce gouvernement de cohésion nationale. Fait saillant de ce gouvernement, c'est le retour du MLC. Une partie du MLC rejoint le gouvernement de cohésion nationale, et notamment le retour aussi de Évariste Boshab comme ministre de l'Intérieur et vice-premier ministre. En janvier 2015, c'est-à-dire un mois après ce gouvernement, une proposition à l'Assemblée d'une nouvelle loi électorale. Et là, la population sort dans les rues. Déjà, comme ce qui s'est passé la semaine dernière, on sent l'opposition qui court derrière la population. Je pense qu'en janvier 2015, je parle sous contrôle de mes collègues ici, en janvier 2015, on a déjà des faits de manifestations populaires, une insurrection populaire.
Et c'est vrai que du coup, pour revenir peut-être à la situation d'aujourd'hui, Donc normalement, en novembre 2016, on devait avoir des élections présidentielles,
oui.
Donc 5 ans après celle de 2011.
Voilà.
Et c'est déjà en 2015 les premières manifestations, c'est parce qu'on sentait que ces élections n'auraient pas lieu.
On avait l'impression, beaucoup avaient l'impression, mais on ne fait pas de procès d'intention, qu'on voulait toucher la Constitution. Et le fait de publier cette loi électorale, cette volonté de mettre en œuvre une nouvelle loi électorale, c'était, une fois de plus, rebattre les règles du jeu en plein milieu de la partie. Et donc, c'était inadmissible. Mais j'insiste sur janvier 2015, qui, pour moi, est vraiment un tournant. Donc, depuis janvier 2015, il y a une série de processus qui se sont mis en place, comme la mise en place des 26 provinces fin 2015. Il y a eu cette sortie aussi de Moïse Katumbi qui est arrivé à Lubumbashi, et qui a dit que c'était fini les faux pénaltys, parlant des élections. Donc ce sont des faits saillants. Donc l'année 2015 se passe comme ça et on se retrouve en 2016 où on lance en décembre 2015, il y a la lancée du la naissance du Front citoyen 2016. Donc ça, c'est vraiment un premier regroupement de l'opposition. Et je pense qu'on peut arriver rapidement en août 2016 avec le retour d'Étienne Tshisekedi, qui s'est très bien passé. Retour massif d'Étienne Tshisekedi, mais qui s'est bien passé. Le pouvoir s'entend certainement que Tshisekedi allait participer au dialogue qu'on a lancé le 1er septembre 2016.
Dimitri Verdonk, on a dit qu'effectivement il y avait eu des manifestations la semaine passée et la reprise de ces manifestations ne sont pas faites par hasard parce que le 19 septembre, c'est la date en fait où normalement Joseph Kabila, donc le président, aurait dû convoquer le corps électoral. Il ne l'a pas fait.
Il ne l'a pas fait, mais si vous voulez bien, j'aimerais bien revenir sur ce que vient de dire Fabrice Primont, parce que c'est important pour comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui. C'est que tout au long de ces différentes étapes, la situation des droits de l'homme s'est considérablement aggravée. Donc en 2011, avec l'association Culture et Progrès, nous avions fait un état des lieux de la situation des droits de l'homme, donc l'ensemble des droits, les droits civils et politiques également. Et le constat n'était déjà pas très brillant à ce moment-là. Comme l'a rappelé Fabrice, il y avait des grosses craintes sur la manière dont les élections allaient se dérouler. Mais déjà à la mi-mandat, on était en 2008-2009, les partenaires de la FIDH avec qui on travaille beaucoup, les grandes associations de défense des droits humains, se plaignaient de toute une série de graves violations faites aux droits humains.
Oui, la situation n'a fait que s'empirer, on va dire, depuis, en fait.
Oui, tout à fait. Donc, elle était déjà très, très inquiétante en 2011. À partir de janvier 2015, c'est aussi un moment important parce qu'il y a eu des morts, il y a eu de graves violations, de nouveau, j'insiste, commises par la police, par des divers représentants armés de régime. Et donc il y a un basculement vraiment à partir de janvier 2015 tout à fait clair, et aussi dans la manière dont les différents opposants ou les mouvements citoyens sont traités. Donc c'est à ce moment-là que les Filimbi ont été persécutés, que toute une série d'acteurs de la société civile ou de l'opposition ont été très clairement visés par l'appareil répressif du régime. Alors maintenant, les manifestations de la semaine dernière interviennent dans un contexte particulier, mais aussi avec tout ce passif, avec déjà de très nombreuses années au cours desquelles la société civile a été très malmenée. Alors non, en effet, ça n'est pas un hasard, c'est une date très importante, et la deuxième date, c'est le 19 décembre. Donc là, durant 3 mois, on va se retrouver dans une période très instable et qui nous inquiète beaucoup. Parce que les manifestations vont se multiplier.
Alors, Sabine Kakunga, donc je le rappelle, vous travaillez au CNCD. Le CNCD qui s'est inquiété déjà depuis longtemps, depuis effectivement janvier 2015 aussi, de toutes ces atteintes aux droits de l'homme et notamment de l'arrestation de plusieurs militants pour les droits de l'homme.
Effectivement, si je peux aussi me permettre de rappeler, sans faire l'histoire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, les droits de la majorité, la très très grande majorité de Congolais et de Congolaises est toujours mis en danger chaque jour. On parle ici des atteintes des droits humains, des défenseurs des droits humains, mais la grande majorité, chaque jour, leurs droits de manger, de boire, de se faire soigner, de s'occuper de leurs enfants, sont des droits qui sont bafoués depuis des années. On a au Congo des générations de parents, des grands-parents, des enfants, des petits-enfants qui vivent de la débrouillardise depuis des années. Et donc, les gens sont fatigués. Et c'est pour cela qu'on arrive à des situations où l'expression, quand ils veulent s'exprimer, ça s'exprime parfois avec violence. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est ça aussi. Et donc, le CNCD 1111, comme vous disiez, s'inquiète parce que ceux qui essayent de rappeler que les droits de vivre, les droits de manger, les droits de boire, les droits d'amener ses enfants à l'école sont des droits fondamentaux, ils sont eux-mêmes persécutés. Et donc, ça, c'est une situation qui fait qu'avec les manifestations de la semaine dernière et même de janvier, comme Fabrice le disait tout à l'heure, c'est ça que la population prend les devants. Ils vont dans la rue parce qu'il y a des échéances qu'ils attendent et qui ne se réalisent pas.
Ils ont vraiment des attentes par rapport à ces élections. Ils espèrent beaucoup de choses et ils voient que rien ne se passe.
Mais c'est-à-dire qu'on leur a promis, depuis qu'on a mis en place la nouvelle constitution en 2006, en disant que tout ce qu'on a connu, les dictatures et tout ça, c'est derrière nous. On va essayer de mettre en place des institutions qui vont faire en sorte qu'on va vous prendre en charge pour faire respecter vos droits, comme je les ai énumérés ici. Et puis, ils ont attendu depuis longtemps. Et puis, on constate que... rien ne se passe. La vie quotidienne de la population est très, très difficile pour ceux qui vont au Congo et qui vont dans des quartiers. On est encore dans un pays où les gens ne mangeraient pas tous les deux jours. Et quand on dit que l'indice de développement humain, le Congo est remonté, il a gagné 11 places, oui. Si on prend, par exemple, les références de l'éducation, les enfants vont à l'école, mais qui paye l'école des enfants? Donc, on est dans un pays où on dit aux gens, débrouillez-vous pour vivre. Et les gens sont fatigués. Et moi, je suis désolée avec ces violations, non seulement des défenseurs des droits humains, mais ces jeunes gens qui meurent dans la rue. Et je suis désolée que leurs autorités les qualifient de délinquants. Mais s'ils sont des délinquants, qu'ils s'en occupent. Et donc, même les jeunes gens qui se réunissent pour réclamer les droits, comme les Filimbi qui s'étaient réunis, on les traite de terroristes. Ceux qui vont dans la rue, on les traite de délinquants. Mais c'est la responsabilité de l'État congolais de s'occuper de ces enfants, même ceux qui vont dans la rue, qu'on dit qu'ils sont des délinquants. Donc, c'est là le problème. Les manifestations viennent parce que les gens sont très très attentifs à des échéances. Et comme ils voient qu'il n'y a rien, il n'y a pas de signe positif pour dire qu'on va organiser les élections, il y a un calendrier, alors les gens sont inquiets, les gens prennent les devants, les politiques, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de ceux qui sont au gouvernement ou ceux qui sont dans l'opposition, un jour ils vont être dépassés par ces gens qui réclament simplement de vivre en paix, de boire, de manger, de s'occuper de leurs enfants, sans compter les conflits à l'Est qui sont à répétition. Donc, c'est ça aussi, les violations des droits humains ne sont pas seulement les droits de dire qu'il faut organiser les élections. Les gens en ont marre d'un État qui ne s'occupe pas d'eux et qui les traite de délinquants quand ils réclament leurs droits.
On voit effectivement qu'il y a plusieurs problèmes. Et c'est vrai que, Dimitri Verdon, au niveau vraiment des répressions de ces manifestations et aussi des arrestations, est-ce que ces arrestations se sont multipliées vraiment depuis janvier 2015?
Il y a à la fois des arrestations, des détentions arbitraires et puis une instrumentalisation de la justice clairement à des fins politiques. Quand on regarde depuis... si je prends en juin 2016, Moïse Katumbi, qu'on a invité la semaine dernière au Parlement européen, il a été condamné à 3 ans dans un procès qui a perdu toute crédibilité, puisque la magistrate qui a prononcé et signé la condamnation, il y a quelques semaines, a expliqué qu'elle l'avait fait sous la menace et elle a été contrainte de quitter le pays. Elle est maintenant sous la protection de la FEDH. En août 2016, la répression d'une réunion du Rassemblement des forces politiques et sociales à Lubumbashi. C'était un événement aussi particulièrement grave, avec des condamnations très très lourdes. Si je ne m'abuse, le bourgmestre adjoint a été condamné à plus de 6 ans de prison pour un comportement que n'importe quel bourgmestre aurait eu pour assurer l'ordre public. Fin août, heureusement, une série de jeunes ont été libérés, des jeunes activistes, notamment liés au mouvement, différents mouvements citoyens. Mais donc, on constate, oui, clairement, une multiplication des arrestations, des détentions arbitraires et une manipulation de la justice.
Fabrice Primon, quel est le rôle que peut jouer la Belgique, que peut jouer l'Union européenne? On voit que, par exemple, la semaine passée, les violences ont été condamnées, etc. mais qu'est-ce qu'on peut vraiment jouer comme rôle? Est-ce qu'il y a un rôle à jouer, ou pas d'ailleurs, de la Belgique et des instances belges?
Oui, je veux peut-être juste revenir sur la question de la gouvernance. Ce n'est pas moi qui fais le constat, mais la population congolaise, comme Sabine l'a évoqué, fait le constat d'un problème de gouvernance, puisque sa situation ne s'améliore pas vraiment. Et quelle est l'issue à un problème de gouvernance? C'est évidemment les élections. Et donc on a une année 2016, une année électorale qui s'est passée sans élection. Je pense que ça, c'est d'une énorme violence déjà. Donc je pense qu'il faut savoir où est la violence, d'où vient la violence. Je pense que c'est une question élémentaire aujourd'hui. J'ai entendu tous les appels au calme, notamment des autorités belges. C'est très bien, évidemment, on appelle tous au calme, au dialogue. Mais je pense que les schèmes de violence sont présents au quotidien. Alors justement, la Belgique, le gouvernement wallon, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je dirais, comme d'autres gouvernements européens, se sont portés volontaires pour appuyer le processus électoral à différentes étapes, à différents moments, à différents niveaux, même à un moment donné en scandant les financements pour être sûr de franchir les étapes. Donc tout ça a été proposé. Bon, bah, et chaque fois, c'est tombé un petit peu à l'eau. C'est vrai que c'est pas facile d'organiser des élections dans un pays. Faut quand même se rendre compte que le corps électoral est de 35 millions d'électeurs. Et
s'il n'y a pas de volonté pour le faire,
c'est... Et en plus, s'il n'y a pas de volonté, donc voilà, c'est très compliqué. Nos amis ont été observateurs dans des bureaux, ils savent ce que c'est. Donc aujourd'hui, moi, je pense que le rôle, voilà, c'est de pointer un petit peu cette violence et de se dire, écoutez, nous, on comprend, les manifestants, oui, sont violents, mais il faut quand même se dire que les violences ont eu lieu avant la manifestation, pratiquement la semaine dernière. Alors d'où vient la violence? Qui l'a organisée? C'est très compliqué de le dire. On ne va pas la jeter tout de suite sur les manifestants. Je pense qu'il y a des réactions disproportionnées des forces de l'ordre et de sécurité. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit être vraiment très attentif à accompagner des processus d'enquête dans le système juridique congolais d'abord, mais si ça s'avère nécessaire dans un système de justice internationale.
Alors, on va continuer à en discuter. Je propose de faire une petite pause musicale avec une chanson tout à fait symbolique, puisqu'on va écouter Indépendance Tcha-Tcha, une chanson créée en 1960. Donc l'année de l'indépendance du Congo, par Joseph Kabasele alias Grand Calais et l'African Jazz. Donc on écoute tout de suite.
Indépendance, tcha tcha, tozumiye, oki kwanza, tcha tcha, tubakidi, au table rond, tcha tcha, baganyeo, oni panda, tcha tcha, tozumiye, indépendance, tcha tcha, tozumiye, oki kwanza.
Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Ce soir, nous parlons des atteintes aux droits de l'homme en République démocratique du Congo avec Sabine Kakunga, chargée du dossier Afrique centrale au CNCD, Dimitri Verdon, président de l'association Culture et Progrès, et Fabrice Primon de Wallonie-Bruxelles International. Alors cette chanson, Indépendance Tcha-Tcha, c'est devenu un véritable symbole de l'émancipation dans les années 60. Sabine Kakunga, que reste-t-il finalement des illusions de 1960?
Mais 1960, indépendance Tcha-Tcha, depuis le 30 juin 1960, le Congo n'a pas connu le calme. Il y a eu beaucoup de perturbations, mais une grande chose qui reste, c'est que les Congolais se sentent toujours indépendants dans leur imaginaire, dans leur tête, dans leur grande majorité, ils se sentent toujours indépendants. Et c'est pourquoi ils se battent, pour qu'on ne leur enlève pas encore cette fierté de cette indépendance, pour qu'on vienne, malgré les dictatures, on les a connues avec Mobutu, avec tout, mais les Congolais se sentent toujours indépendants et se sentent toujours prêts à se battre pour leurs droits, même s'ils n'ont pas de moyens. On parle de moyens qui ne sont pas égaux entre les garants des droits et les populations. Mais je pense que l'indépendance est toujours dans la tête des Congolais et l'unité du pays. Le pays était divisé à un moment donné, mais les Congolais, leur force, c'est de vouloir toujours rester ensemble, quelles que soient les difficultés qui peuvent venir de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Et c'est pour cela que c'est très important de soutenir ces combats pour lesquels les gens ils sont en train de se battre. Ils veulent vivre dans un pays bien et vivre bien. Ils ne sont pas en train d'avoir la haine contre quelqu'un. Ce n'est pas la veille d'organiser les élections qu'on commence à dire que les gens aiment ou n'aiment pas telle personne ou tel président. Il faut vraiment capitaliser. C'est pourquoi les Congolais se sont battus le 30 juin 1960. C'est l'indépendance, y compris aussi l'indépendance de vivre dans un pays de droit. Quelqu'un ne doit plus encore venir imposer une autre colonisation à ses concitoyens et commencer à s'expliquer, commencer à diaboliser ou commencer. Donc, moi, je pense que ça, c'est un acquis très, très important. Voilà.
Quand vous rencontrez, Dimitri Verdon, les représentants de l'opposition, des partis d'opposition, est-ce que vous avez l'impression qu'eux sont dans une dynamique d'amélioration des droits humains? Est-ce qu'il y a quand même une conscientisation qu'il y a des vrais problèmes de droits de l'homme en République démocratique du Congo?
Bon, d'abord, je pense que sur les constats, tout le monde est d'accord. Maintenant, il y a différentes séquences. Quand on invite les représentants de l'opposition à s'exprimer sur la situation des droits humains, ils sont tous Ils parlent vraiment de la situation telle qu'on la connaît sur le terrain, c'est tout à fait clair. Maintenant, ils sont aussi, eux, dans une séquence particulière. Et donc, ils ne disent peut-être pas tout ce qu'on aimerait entendre. Parce que quand on parle des droits humains, on parle aussi des droits économiques et sociaux, comme le rappelait Sabine. Et donc, on a un travail à faire aussi de sensibilisation. Mais après, on s'intéresse au contenu. Qu'est-ce que les différents opposants proposent? Parce que quand nous on s'intéresse en fait à la situation électorale, c'est vraiment une partie de ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le fond. Et donc, sur quoi les élections qui devront un jour ou l'autre se tenir au Congo vont-elles déboucher?
Et justement, qu'est-ce qu'ils proposent?
Bon, on en a rencontré quelques-uns. Pour l'instant, on a rencontré Moïse Katumbi récemment, on a rencontré Vital Kamerhe, on va sans doute inviter aussi prochainement Noël Tchiani. Chacun a des propositions, on essaie de les répercuter sur notre site internet ou sur des vidéos que nous faisons. Si vous voulez, nous, on a un regret aujourd'hui, c'est la situation politique qui fait que ça devient absolument inaudible de parler du fond. Nous, normalement, on aurait bien aimé aujourd'hui pouvoir parler de la campagne électorale, pouvoir présenter ce que chacun avait comme projet, pouvoir faire un bilan constructif, pas forcément hyper négatif, de ce que le régime a pu faire. Ça, aujourd'hui, c'est tout à fait impossible. Si vous voulez, on est aussi, nous, particulièrement intéressés à mettre en valeur ce qui se fait au sein de la société civile. Vous savez, en préparant l'émission, je refaisais un petit peu notre rapport de 2011 et je me souvenais que Benoît van der Meerschen, puisqu'on est ici dans une émission de la laïcité, disait.
Oui, je rappelle ceci. Benoît van der Meerschen, qui est donc secrétaire général adjoint du Centre d'action laïque, comme ça.
Voilà. Alors, quand je l'interrogeais sur le Congo, il disait: ma perception du Congo aujourd'hui, donc en 2011, un miracle permanent dans un océan de non-gestion et de violence. Un miracle grâce à la vitalité de sa population, à l'opiniâtreté de sa société civile et non de ses dirigeants. Ça, c'était en 2011. Alors, je pense que c'est quand même aussi tout à fait indispensable. J'ai eu, il y a quelques jours, l'occasion de parler à Radou Mbote. Imaginons ce que serait aujourd'hui le Congo sans la société civile. Alors, tout le monde constate au Congo, en effet, un délitement de l'état de droit et toute une série de choses qui ne vont pas. Si le Congo tient encore debout aujourd'hui, c'est grâce à la société civile. Et donc, je suis un petit peu, si vous voulez, je regrette aujourd'hui que la parole, on entende surtout les représentants du régime de Kabila et les opposants, beaucoup trop peu la société civile.
Alors, on parlait de la société civile, on parle de laïcité. Du coup, je voudrais quand même qu'on termine l'émission en parlant de cette initiative qui est la Maison de la laïcité de Kinshasa. Donc, elle a été créée il y a 5 ans. C'est un projet qui a pris forme parce qu'il y avait justement un partenariat entre toute une série d'associations congolaises et des associations laïques ici. Alors, Dimitri Vorgodon, vous avez participé à la création de cette Maison de la laïcité. Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler les motivations de départ ?
Donc, j'ai en effet un petit peu suivi la création, notamment à travers l'implication de Pierre Galland et puis des partenaires congolais sur place. Nous avons reçu ici à Bruxelles le président de la Maison de la laïcité. Bon, il s'agissait de manière très générale d'ouvrir un lieu de liberté de pensée et d'expression, un lieu de rencontre, un lieu où pouvait s'organiser toute une série d'événements, de conférences. L'idée était vraiment d'avoir une fenêtre ouverte sur la laïcité à Kinshasa et plus largement au Congo.
Oui, d'ailleurs, Sabine Kakunga, vous suivez aussi le projet. Est-ce qu'il y a des initiatives intéressantes qui sont nées dans cette Maison de la laïcité pour toute une série de droits humains, des droits des femmes aussi? Je sais que vous travaillez sur cette thématique du droit des femmes. Est-ce que c'est important d'avoir des initiatives comme celle-là et des lieux où il y a vraiment une liberté de pensée, une liberté d'action ?
Oui, en effet, la Maison de la laïcité, le CNCD a contribué aussi financièrement à financer ce projet. Ça fait partie de son rôle de soutenir ses membres. Oui, c'est, au départ, il y a un problème qui se pose au Congo. C'est un pays qui, de plus en plus, devient très religieux. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais les gens ont
alors
droit.
Que dans la Constitution, il est dit que la République démocratique du Congo est un État laïque.
Est un État laïque, mais ici, je parle surtout aussi des religieux dans les quotidien, dans les faits quotidiens, où le fait de dire d'être laïque devient un peu quelque chose qui d'anormal. Et donc, ce qui fait que, en lien avec les droits des femmes, il y a certaines choses qu'on peut faire qui font avancer les droits des femmes qui ne peuvent pas se réaliser, parce que si tout le monde pense de la même manière et qu'on puisse mettre dans des choses qui paraissent ne pas être normales, comme par exemple le planning familial, des lieux pour aller simplement réfléchir sur le plan familial. Je donne cet exemple-là sans qu'on soit considéré comme si on abordait des tabous, alors que la réalité quotidienne montre que ce sont des sujets très, très importants pour les femmes, en parler pour se protéger, en parler pour gérer sa vie. Et donc, la Maison de la Cité a tout à fait sa place à Kinshasa. Maintenant, il y a aussi la réalité qu'il y a tout un travail à faire autour. Et c'est là le rôle de la société civile. Nous sommes dans une société qui est laïque. Et donc, il y a tout un travail à faire d'expliquer pourquoi il peut y avoir des lieux neutres, entre guillemets, qui ne sont pas nécessairement religieux, pour aborder la question de certains droits qui paraîtraient tabous. Et la Maison de la Cité accomplit ce rôle-là. Et la société civile en général, comme on l'a dit tout à l'heure, a un rôle très, très important à jouer et joue ce rôle. Et malheureusement, dans ce conflit où la société civile est toujours en train de courir derrière les urgences, et où elle court aussi un très grand danger, soit d'être récupérée, soit par la majorité ou l'opposition, on a tendance à dire qu'elle ne fait pas correctement son travail. Mais c'est très important que la société civile plurielle existe et puisse faire avancer des idées comme les idées de la laïcité.
Merci en tout cas à tous les trois. On arrive déjà à la fin de cette émission, mais peut-être juste en dernier mot, vraiment en 15 secondes, quel est votre espoir à chacun, vraiment 15 secondes chacun, votre espoir pour l'avenir?
L'épreuve de la rue, moi j'ai un peu peur de l'épreuve de la rue, et j'espère que les autorités congolaises vont agir avec calme et proportion.
Pour Fabrice Primont, Dimitri Verdon.
Pour moi, c'est l'enjeu primordial, c'est le dialogue, sous quelque forme que ce soit, pourvu qu'il soit inclusif et qu'il débouche sur des élections le plus tôt possible, parce que pour l'instant, il est tout à fait clair aujourd'hui que des élections ne peuvent pas se tenir dans les délais constitutionnels.
Sabine Kakunga, votre espoir?
Moi, mon espoir est que les gens qui dirigent les pays et les gens qui ont accès aux ressources comprennent qu'il y a une majorité de Congolais qui ont besoin aussi de vivre correctement et qu'il n'y ait plus cette cassure-là qui font qu'il y en a qui monopolisent le pouvoir, y compris le pouvoir politique, économique, et il y en a qui doivent survivre.
Eh bien, merci en tout cas à tous les trois de nous avoir éclairés sur cette situation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine à 20h sur la première pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Belle soirée à tous.
Enquête de sens
sur la première.